Chapitre 3. Après avoir écrit ces derniers mots, Brigitte, profitant d'une éclaircie, se dirigea vers la forêt avec l'intention d'y entrer. Le ciel était bas, le temps doux, et l'apparence des choses enveloppée de tristesse. Indifférente à cet aspect, elle résolut de suivre un sentier qui aboutissait à une clairière qu'elle considérait comme son domaine particulier. Mais quand elle approcha des bois, un chasseur en sortit et s'avança dans les jardins. Brigitte regarda, avec une surprise non dissimulée, ce visiteur qui semblait être chez lui et la considérait avec une vive curiosité. « Est-ce à Mademoiselle d'Éponée que j'ai l'honneur ?»« Elle-même, monsieur, vous venez voir mon père ?»« Oui, mademoiselle, nous sommes de vieilles connaissances. »« Comment ?» L'air étonné de Brigitte compléta sa pensée. « Je reconnais bien là mon ami d'Éponée, » s'écria le visiteur. « Il est assez distrait pour m'avoir oublié, car j'ai été longtemps absent. Je m'appelle Séverin Duras. » Brigitte inclina la tête avec un sourire qui parut charmant à M. Duras. « Oh, je sais maintenant, » dit-elle. « Mon père m'a parlé de vous, monsieur, et il regrettait votre éloignement. Il sera heureux de vous revoir. » Ils se dirigèrent vers le manoir et Brigitte renoua la conversation en disant « La Durbetière est une bien jolie propriété, monsieur. Vous la connaissez? Vous la trouvez jolie? Depuis mon arrivée dans le pays, je me suis promenée un peu de tous côtés. J'ai traversé vos bois et admiré vos étangs. » On allait droit au cœur de M. Duras en vantant sa propriété et les simples mots de Brigitte achevèrent de lui gagner une sympathie immédiatement éveillée à la vue de la jeune fille. Il regardait avec plaisir sa taille délicate, élancée et frêle, qui lui inspirait un vague désir de la soutenir. Il admirait son joli visage et ses yeux bruns dont la mélancolie l'étonnait. De son côté, Brigitte l'observait et pensait que la sympathie générale qui entourait le nom et la personne de M. Duras paraissait méritée. L'accueil de M. d'Éponée la frappa. Ignorant combien un savant ou un écrivain devient sociable quand il rencontre un auditeur complaisant, elle compara l'attitude nouvelle de son père avec les habitudes silencieuses dont elle souffrait sans cesse. « Il lui faut un étranger, se dit-elle, pour parler, sortir de ses distractions. Moi, je suis impuissante. » Retenu à dîner, M. Duras put observer Brigitte à loisir. Il s'enthousiasmait pour ses beaux yeux intelligents et candides qui, après s'être animés en suivant les mouvements de la conversation, redevenaient tranquilles et tristes. « J'éprouve, pensait-il, le même plaisir qu'en regardant l'expression pure d'un enfant. » Quand il se leva pour partir, M. d'Éponée insista pour qu'il vînt souvent à Noirpin. « Reprenez vos bonnes habitudes. Entrez toujours quand vous passerez près de nous et venez le plus tôt possible, car j'ai plusieurs études à vous lire. » « J'userai de la permission, » répondit Séverin en saluant Mademoiselle d'Éponée qui lui tendit la main. Au lieu de prendre le chemin des bois, M. Duras suivit la route communale et, en traversant le village, ayant aperçu de la lumière au presbytère, il entra chez le curé afin d'obtenir des renseignements sur Brigitte. « La voyez-vous souvent ? » demanda-t-il. « Avant le mauvais temps, je la voyais passer fréquemment, mais elle ne s'arrêtait pas au presbytère. » « Comme elle paraît intéressante, est-il vrai qu'elle soit toujours seule ?» « Toujours, vous connaissez l'horreur de M. d'Éponée pour toute atteinte à son repos. Il vous a accueilli admirablement parce que vous vous êtes intéressé à ses travaux et pour la même raison, il me supporte. Du reste, il est très satisfait d'avoir sa fille auprès de lui. Seulement, il la croit heureuse et elle ne l'est pas. Et il se trompe sur son caractère, ou du moins sur la tournure et la portée de son intelligence. Il m'a dit à moi-même, « Je suis bien heureux dans ma fille. Elle ressemble à sa mère, qui avait l'imagination la plus calme et le caractère le plus facile. Comme elle, Brigitte se contente d'une vie sérieuse et de l'intérêt des petits faits quotidiens. » « Eh bien, » demanda Séverin avec curiosité, « vous ne le croyez pas dans le vrai ?»« Du tout. » Et personne ne pourra l'éclairer parce qu'il ne veut pas l'être. Pour tout autre, l'expression songeuse et mélancolique de Mademoiselle d'Éponée serait le trait de lumière. Mais il est bon pour elle. Oh, très bon, si l'on entend par là certaines questions matérielles. Monsieur d'Éponée est un de ces hommes qui n'écraseraient pas un insecte volontairement, mais qui passent leur vie à faire souffrir inconsciemment leur entourage. En vérité, s'écria Séverin, il y a du bien à faire dans cette maison. Beaucoup, répondit le curé, souriant intérieurement de ce beau feu et des conséquences faciles à prévoir. Quel âge a-t-elle ? Elle aura, m'a-t-on dit, 21 ans dans peu de jours. Monsieur Duras revint très songeur à la Durbetière. Il avait toujours habité sa propriété, longtemps avec sa mère, morte depuis 18 mois, et il avait atteint la quarantaine en déclarant que le célibat était l'état le plus enviable. Mais dans la solitude, ses idées se modifiaient. Très jeune de cœur et d'esprit, il était arrivé à ce point psychologique où il suffit, pour que la vie s'engage, du coup de tam-tam dont parle Drose. Grand, plein de force physique, bon et d'humeur tranquille, il était adoré de ses métayers, de ses domestiques et des paysans à 10 lieues à la ronde. Maire et conseiller général, son ambition n'allait pas plus loin. Il aimait sa vie, accomplissait le bien sans éclat et sans phrase. Il ne le recherchait pas, mais quand il le rencontrait, allait à lui d'une marche simple et unie. Intelligent, sans grands besoins intellectuels, il avait complété, par ses lectures, d'assez fortes études pour éprouver un grand plaisir à discuter avec M. d'Éponée. La vue de Brigitte n'était pas faite pour l'éloigner de Noirpin, et il fut singulièrement satisfait que M. d'Éponée ne vit pas, dans la présence de sa fille, un motif pour lui interdire des visites fréquentes. Au bout de 8 jours, il connaissait l'impression générale sur sa jeune voisine. Elle avait su se faire apprécier des paysans qui, en Vendée, acceptent difficilement les nouveaux venus, à moins qu'ils n'aient des attaches dans le pays. Indépendants et fiers, il faut, pour se faire aimer d'eux, leur parler avec une sorte de familiarité, tout en gardant sa propre dignité, car le jour où la familiarité dépasse certaines bornes, ils retirent leur considération. Brigitte, en saisissant avec finesse cet esprit, avait évité les maladresses, et son charme personnel aidant, elle était aimée. De plus, il la plaignait, et M. Duras entendait souvent répéter « Pauvre demoiselle, elle est toujours seule, c'est bien triste. » Quand il alla chez Madame Thuriondry, qu'il connaissait depuis son enfance, il n'eut aucune peine à conduire la conversation vers les d'Éponée. Quels gens ! Depuis l'arrivée de cette petite, on pouvait supposer qu'ils se rapprocheraient de leur vieille parente. Point ! Je ne les vois pas, ai-je la peste ? Vous savez de longue date que M. d'Éponée est un original. Mais que sa fille est sympathique! Elle rêve à la lune, mais elle est gentille, j'en conviens. Gentille, s'écria Séverin, le mot peut-il s'appliquer à une jeune fille délicieuse? Ah ah! Vous en êtes déjà là? Brûlez-vous, mon cher, brûlez-vous! D'ailleurs, pourquoi pas? Ajouta-t-elle en donnant un grand coup de poing sur la table. Comment n'y avais-je pas songé? Songé à quoi? À votre mariage avec Brigitte. Comme vous allez vite, s'écria-t-il avec embarras, je connais Mademoiselle d'Éponée depuis 15 jours et vous en êtes au mariage. Pourquoi pas? À la campagne, on se connaît promptement si on se voit souvent. Et quand la sympathie est née au premier jour? Et la différence de nos âges, qu'en faites-vous? Rien du tout, en dehors de votre mérite personnel, que j'apprécie grandement, mon jeune ami. Vous offrirez beaucoup à ma cousine. Tout est facile en parole, répondit évasivement M. Duras. Mais il emporta de cette conversation une impression qui le rendit très heureux. Mademoiselle d'Éponée avait l'attrait d'une nature fine et délicate, c'est-à-dire que plus on la voyait, plus cet attrait devenait vif. Elle souriait volontiers, et ce sourire, en dissipant la mélancolie habituelle de sa physionomie, donnait une séduction nouvelle à son regard d'enfant. Ce sourire devint bientôt la préoccupation constante de Séverin. Ma présence la sort de sa tristesse, pensait-il. Il faut que j'arrive à voir sans cesse dans ses yeux le joli rayon. Il entrait donc toujours à Noirpin avec l'idée de remplir une mission bienfaisante et, sous l'empire de cette pensée, multipliait ses visites. Il se leurrait lui-même, ainsi qu'il arrive en semblable occurrence, et suivait un penchant naturel qui devait se transformer en passion tendre et profonde. L'élan sympathique avec lequel Brigitte accueillit l'élément nouveau qui modifiait son existence isolée établit immédiatement, entre elle et Séverin, un courant d'amicale confiance. Les habitués du monde, obligés à la réserve et souvent aux luttes défensives, ne soupçonnent pas les excès de confiance auxquels arrive très vite un être jeune, solitaire, sans amis. Avec quelle simplicité il parle de lui-même et de ses soucis. M. Duras avait, du reste, les qualités qui attirent les amitiés et, dans les circonstances présentes où son cœur, dès le premier jour, était entré en jeu, il laissait voir toute la bonhomie de son excellente nature. Une courtoisie simple, qui ne se démentait jamais, facilitait pour Brigitte ses rapports constants avec lui. Elle s'abandonna donc avec confiance à l'intimité d'une amitié que tant de fois, dans son isolement, elle avait désirée. Mais Séverin n'était point un romanesque. Elle se trouvait en face d'un homme bien équilibré, dont l'esprit droit et le bon sens vigoureux ne s'écartaient jamais d'une saine conception de la vie. Eh quoi ? Lui disait-elle avec étonnement. Est-il possible que les horizons de la Durbetière vous suffisent ? Et pourquoi pas ? Ils sont bien courts. C'est une erreur. Les horizons sont ce que les fait notre pensée. Mais la pensée peut être aidée ou confirmée par les faits. Quels faits ? Le sais-je, des fêtes qui ne ressemblent en rien à ceux que nous voyons tous les jours. Ce que nous voyons suffit bien si nous le comprenons. Supposez que j'ai une vie plus mouvementée, plus brillante. Mes horizons seraient-ils plus larges? Ils s'élargiraient si ma pensée s'étendait, autrement... Oh, comme vous comprenez peu, dit-elle en riant. N'avez-vous jamais lu de roman? Ne savez-vous pas que, dans la vie, il se présente des circonstances qui l'animent et la sortent du terre-à-terre ? Mirage, répondit Séverin. Si c'est un mirage, je l'aime mieux que la réalité. Ils s'entendaient sur un fond commun d'idées généreuses, mais sur ce terrain, comme sur beaucoup d'autres, Brigitte perdait pied, son cœur étant guidé par son imagination. En vérité, lui dit-elle, je ne comprends que les grandes entreprises ou le rôle du petit manteau bleu. Le sentier battu, en fait de générosité, me paraît insipide. Il est le seul qui offre de la sécurité à moins de circonstances exceptionnelles. Je ne l'aimerai jamais, et quant au bien, mon pinceau lui donne d'autres couleurs. Défiez-vous des tons faux. Elle se mit à rire en répondant. C'est bien beau, une imagination tranquille. Non, mais c'est bien sûr. Elle avait une manière très douce d'exprimer des idées extravagantes ou d'affirmer sa conviction que la vie s'arrangeait toujours comme un beau conte bleu. Souvent, leur conversation revenait sur les mêmes sujets et les dispositions romanesques de Brigitte eussent rendu une autre femme très antipathique à M. Duras. Mais il l'aimait et avait pour elle toutes les indulgences. Plus il la voyait s'égarer, plus il s'attachait à elle, plus le charme de la jeune fille lui paraissait piquant, et il se disait, non sans raison, qu'un ferme appui redresserait son jugement. Serais-je pour elle un jour cet appui, quand je lui offrirai mon nom, appréciera-t-elle ma démarche, ou le roman, qui vit dans son cœur, lui cachera-t-il la vérité ? Problème qu'il ne voulait pas aborder avant d'avoir essayé de se faire aimer. Il n'avait aucune fatuité, mais un sentiment très légitime de sa valeur et de sa grande honorabilité. En demandant la main de Brigitte, il offrirait une situation solide qu'il tenait autant de ses qualités personnelles, il le savait, que des traditions de sa famille. Enfin, en dehors de l'estime attachée à son nom, il était riche et pouvait donner à sa femme l'existence la plus douce. Aussi, en réfléchissant à l'avenir, il se disait « Ce n'est pas seulement en l'aimant que je guérirai son esprit, mais en l'amusant. Je lui apprendrai, peu à peu, à voir la vie comme elle est, non comme la lui montrent ses aspirations. » En méditant souvent sur le mal qu'il voyait grandir, il se demandait s'il devait reculer plus longtemps son aveu. Mais, saisi d'un doute timide en la voyant, il se taisait. « Quel aimable compagnon le ciel m'a envoyé !» écrivait Brigitte. « Il n'a rien de romantique et, à mon sens, il serait difficile de l'idéaliser. Pourquoi ? Je n'en sais rien, car il est fort bien de sa personne. Ensuite, il a de l'intelligence, une intelligence singulière, sans fantaisie, sans course dans le royaume que j'aime. Il est courtois comme on l'était, dit-on jadis, et chacun loue sa bonté. Il passe pour avoir beaucoup de bon sens. Serait-ce que moi j'en manque ? Car nous ne voyons certainement pas la vie sous le même aspect. Il est vrai que nos âges diffèrent. Pour lui, on dirait que la vie qui nous est échue suffit toujours. Il s'agit de la comprendre et de l'aménager. L'aménager, c'est-à-dire réfréner ses aspirations pour vivre dans le terne, aimer ce qui n'est point aimable. Il s'est un peu fâché aujourd'hui quand j'ai exprimé cette idée. « À quoi songez-vous donc » m'a-t-il dit. « La vie n'est pas un conte de fées. Elle est une succession de devoirs égayés par des joies. » « Je ne crois guère aux joies, » ai-je répondu avec un peu d'amertume. « L'avenir vous y fera croire. » Intérieurement, j'ai soupiré. « Quel avenir ? » A-t-il compris ma pensée ? Mais il m'a quitté un peu brusquement, sans entrer en discussion. 28 février. C'est un fait si singulier qu'un père soit absorbé par ses travaux au point d'oublier la jeunesse de sa fille et, plus encore, son affection. Je n'ai pu, un jour, retenir devant M. Duras une allusion à ma peine. « Comme vous vous trompez, » s'est-il écrié avec chaleur. « Monsieur Desponnets parle de vous avec une vive tendresse et se sent si heureux de vous voir auprès de lui. » Avec délicatesse, il a mis une sage éloquence à me prouver mon erreur. « Dieu veuille que ce soit une erreur. » A-t-il donné le conseil de me distraire ? Je l'ignore. Pendant le déjeuner, mon père m'a dit « Je ne renonce pas au voyage dont je t'ai parlé. Nous partirons aussitôt que mon travail sera terminé. » Avance-t-il, et ce secrétaire que vous attendiez ? On a eu quelques difficultés à le découvrir, mais enfin, c'est fait. J'en ai reçu la nouvelle ce matin. Il arrive dans 15 jours. À deux, nous irons vite. Je ne crois point à la vitesse du travail et je crois encore moins au voyage promis. Les travaux d'érudit ressemblent à la tapisserie de Pénélope. Quant à la venue de ce vieux savant, elle m'ennuie. Exigeant, laid et désagréable, il sera bien impuissant à me distraire. Il achèvera de me voler mon père. Je puis encore lui arracher quelques mots, mais quand il aura un compagnon d'études, nous ne sortirons plus des siècles passés et il me faudra, pour échapper à ce supplice, m'absorber dans les brillantes promesses de l'avenir. 10 mars. Aujourd'hui, il pleut et je n'ai pas vu M. Duras depuis 3 jours. En 2 mois, une amitié devient bien vive et bien nécessaire. J'espère que... Mais à quoi vais-je penser ? Il est trop raisonnable pour s'égarer. 3 jours seuls, c'est long. On prend si vite les habitudes de bonne causerie. Pourvu qu'il ne fût pas fâché en me quittant lundi. Nous avions discuté, comme toujours, et comme toujours, il a voulu redresser les écarts de mon imagination. J'écris ce mot ironiquement, car je sais parfaitement bien que le mot « écart » est impropre. C'est celui de M. Duras, mais quoi d'étonnant ! Mon ami manque aussi totalement d'imagination que la table sur laquelle j'écris. Ce qui ne m'empêche pas de l'aimer beaucoup. Il est si sage, si bon, si attentionné. Mais ces sages pondérés, de quoi seraient-ils capables ? Aimeraient-ils avec fougue, avec ces dévouements extraordinaires qui portent l'amour sur les nues ? Vous demandez trop aux sentiments et aux circonstances, m'a-t-il répété l'autre jour pour la 10e fois. Que serait la jeunesse si elle n'aspirait pas à la vie telle qu'elle la comprend ? Dans la solitude, a-t-il répondu, votre esprit a grandi ou grossi tout ce que vous n'avez pas. Homme sentencieux, ai-je répliqué en riant, comme vous me comprenez peu. J'ai regretté cette réplique, car il m'en a paru tout attristé. Mais j'espère que son mécontentement n'a pas été assez vif pour le retenir loin de Noirpin.